Bah, tu vas, alors, tu vas dire à ma place.
Tiens, à la place. Allez. CRLR, elle peut venir là. Voilà.
Darmanin, range tes mains, range ta queue, ferme ta gueule, ta petite gueule de fasciste qu'on n'oubliera jamais. Ta sale queue qu'on pourrait clouer.
Ouais, 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 on a un jingle Darmanin.
Ta sale gueule,
on a un jingle Darmanin.
On arracherait un œil. Darmanin, range tes mains, range ta queue, ferme ta gueule, ta petite gueule de fasciste qu'on n'oubliera jamais. Tes sales mains qu'on coupera, dont on gardera les doigts, qu'au détail on vendra. Darmanin, range tes mains, range ta queue, ferme ta gueule, ta petite gueule de fasciste qu'on n'oubliera jamais. Ta langue trop bien pendue au micro de télé, qu'on pourrait attraper et jeter à nos pieds. Darmanin, range tes mains, range ta queue, ferme ta gueule.
Salut. Direct et en public du Vanilla Café. Et je veux dire, Areski, Areska, salut. Salut. Tu. T'as le temps de venir nous dire salut. Bah oui, bah je sais, il montre ses fiches et dit.
Salut et bienvenue au Vanilla Café.
Et merci beaucoup au Vanilla Café de l'accueil sans cesse se renouveler.
Et voilà, on accueille Pierre. Pierre qui vient nous parler de cette loi Darmanin, pour celles qui n'avaient pas compris qu'on allait parler de cet affreux personnage. Mais Pierre n'est pas un affreux personnage, mais il vient nous parler d'un affreux personnage. Mais on ne va pas lui faire un mauvais accueil, même si, comme le messager, il vient peut-être nous donner des mauvaises nouvelles.
Est-ce qu'il donne des mauvaises nouvelles? Je sais pas, est-ce que c'est Pierre de droit devant ou...
Oui, Pierre de droit devant,
ouais. Ok. Ben voilà, c'est dit. On s'est rencontrés vendredi dernier à la fête des luttes, la fête de lutte,
ouais.
La soirée de lutte.
Tout à fait.
À l'école Brosselette au Pré Saint-Gervais.
Bon. Alors, Droit Devant, c'est une association qui s'est créée en 1995 sur le thème de la défense de tous les droits. Mais en fait, depuis de nombreuses années, on est essentiellement centré sur la régularisation globale des sans-papiers. Voilà, très rapidement.
Donc régularisation, global, ça veut dire aussi accueil, ça veut dire...
Ça veut dire qu'on accueille les gens, effectivement, on a un local où on accueille les gens, où on fait des permanences, et un local très vivant, avec tous les samedis après-midi, une assemblée générale qui regroupe entre 60 et 100 sans-papiers, quand il n'y a pas de manifestation, dont j'aurai l'occasion de parler tout à l'heure, auquel cas, bien entendu, on demande aux sans-papiers d'aller en manifestation les samedis lorsqu'il y a des manifestations.
Est-ce qu'on peut avoir l'adresse du local?
Oui, alors c'est rue Danzig et j'ai toujours un petit doute sur le...
18e ?
Non, c'est pas dans le 18e. On était dans le 18e à une époque et malheureusement, on a été viré. Et on est dans le 15e arrondissement aujourd'hui. Et c'est rue Danzig et je n'ai pas le numéro précis
on va le trouver.
De la rue. Voilà,
on va le trouver.
Droit devant.
Non, moi, je croyais que c'était la rue Danzig qui avait été basculée du 18e au 15e. Non, c'est l'adresse du local.
Ouais, c'est l'adresse du local.
Bref.
47 rue Danzig.
47 rue Danzig, Paris 15e, tous les samedis après-midi, une permanence de droit devant.
Lundi, on est ouvert tous les jours à partir de 14h.
Tous les jours, mais il y a une AG.
Et il y a une assemblée générale chaque samedi, ce qui est assez exceptionnel.
Chaque samedi après-midi.
Sauf s'il y a des rassemblements, des manifestations, auquel cas on est dans la rue. Quoi.
Bah, peut-être qu'on parlera ça du problème de manifester, enfin qu'est-ce que ça veut dire pour un sans-papier d'aller manifester.
Je suis d'accord avec toi, c'est important de le dire.
En dehors du fait de manifester. Je viens des risques pris. Bon, alors quoi et bon, ben moi, il si, y avait un tract. Il y avait un tract vendredi.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il dit ce tract il dit en gros que cette loi Darmanin, elle fait partie d'un tout. Elle fait partie d'un tout. On a eu une grosse réforme de l'assurance chômage qui, pour certains, est une sorte de réforme qui s'accumule avec les autres, hein, qui s'ajoute aux autres et qui va vers une sorte de réduction à plus que peau de chagrin de cette indemnité. Il y a le chômage. En ce moment, il y a les retraites. Il y a les retraites et on en parlera tout à l'heure avec Agnès. Il y a le logement, hein, il y a toute cette loi anti-squat et autres qui permet, si je ne me trompe pas,
de virer les locataires,
un défaut de paiement au bout d'un mois. Dès le deuxième mois. Donc je ne sais même pas où est le défaut de paiement puisqu'on n'a même pas le temps d'être vraiment défaut de paiement. Il y a la santé. Il y a la santé avec toute la privatisation de la santé. Et si vous fréquentez un peu les hôpitaux en ce moment, vous pourrez vous apercevoir que la plupart des prestations maintenant sont pratiquées par des organismes privés. Il y a la santé. Récemment, j'ai appris aussi qu'il y avait les pompes funèbres. Alors ça, ça fait pas partie là des lois récentes, mais c'est quand même assez récent que les pompes funèbres ont été privatisées il y a quelques années, ce qui donne une fois de plus des prestations qui peuvent être un peu accélérées, un peu bâclées. Enfin, on est dans un rapport de profit et plus que dans un rapport de service. Bref. Qu'est-ce que ça veut dire, là, la loi Darmanin pour les sans-papiers ?
Alors, c'est important ce que tu as précisé au départ, c'est que la loi Darmanin est finalement à recontextualiser dans un environnement politique où, effectivement, le gouvernement est à la manœuvre, sur tous les plans, et donc déroule comme un bulldozer son plan, donc sur le chômage, sur le logement, sur la sécurité sociale, donc dont les retraites, et effectivement sur la loi Darmanin. Alors la loi Darmanin, d'abord c'est un projet de loi qui doit passer normalement au Parlement, notamment à l'Assemblée nationale en mars-avril. Alors ça peut être décalé parce que pour l'instant ils sont un peu chahutés quand même par rapport au mouvement social qui se déroule, dont on espère la victoire parce que ça pourrait être un formidable levier pour combattre le projet de loi Darmanin. Mais le projet de loi Darmanin, d'abord, il faut souligner que c'est, s'il passe malheureusement, ça ne sera jamais que la 29e loi depuis 1980. Ça marque l'obsession en France de vouloir légiférer à tout prix sur l'immigration.
Ça fait une loi tous les un an et demi.
C'est absolument consternant. Et malheureusement, à chaque fois, on s'aperçoit qu'il y a un phénomène cliqué, c'est-à-dire que les lois sont de plus en plus répressives. Donc ça va toujours dans le mauvais sens. Pourquoi ? Parce que il y a malheureusement la pression de l'extrême droite et de la droite extrême qui sont là et qui en fait ont quasiment le stylo en main pour dire à M. Darmanin ce qu'il faut faire, sachant que Darmanin, il ne faut pas trop le pousser, vu sa porosité avec l'extrême droite. Donc en clair, la loi Darmanin, elle a en fait deux versants. Un versant, comme dirait Darmanin, pour les gentils, et un versant pour les méchants. Darmanin a l'art et la manière de diviser les sans-papiers entre gentils et méchants. Classique division. Alors sur le côté gentil, il dit qu'il y aurait la possibilité de régulariser des sans-papiers qui travaillent sur des métiers dits en tension. Qu'est-ce que c'est qu'un métier dit en tension ? C'est un métier où les patrons ont des difficultés d'embaucher. Et ces secteurs sont nombreux aujourd'hui. Quand on écoute la radio, 200 000 dans la restauration, 200 000 postes à pourvoir, c'est une réalité économique. Dans le bâtiment, on n'en parle pas, avec notamment en région parisienne, le Grand Paris et les Jeux Olympiques. Ça va être des milliers de travailleurs et travailleuses qui vont être sur les chantiers et dont un paquet de sans-papiers. L'aide à la personne, beaucoup de femmes travaillent, absolument, et notamment beaucoup de sans-papiers, sans-papiers en l'occurrence. le nettoyage. Enfin, il y a pas mal de secteurs dits en tension et qui font l'objet d'une liste de métiers en tension qui est édictée par l'État et qui peuvent être différentes suivant les régions. Et donc, pour ces métiers dits en tension, il y a une possibilité, entre guillemets, de régularisation et d'un titre de séjour qui serait marqué « métier en tension ». Alors, le seul problème, nous, on dit au gouvernement, chiche, allez-y, régularisez. Mais aujourd'hui, c'est pas la peine d'attendre une loi. Pourquoi attendre une loi ? Vous pouvez déjà régulariser tous ces milliers, dizaines de milliers de sans-papiers et de sans-papières qui exercent leur talent dans ces métiers-là. Régularisez-les. Et s'il y a un défaut de recrutement, c'est pourquoi ? C'est parce que les conditions de travail sont déplorables, bien souvent, et les conditions de rémunération sont mauvaises. Donc chercher l'erreur, il faudrait déjà que les patrons commencent à payer un peu mieux leurs salariés, qu'ils soient français ou étrangers, hein, d'accord, et qu'ils les mettent dans des conditions favorables de travail. Mais nous, on dit au gouvernement, régularisez tout de suite. Or, le gouvernement ne sait pas ce qu'il fait, il attend cette loi. Et donc le danger, au-delà de cette opportunité de régularisation, c'est que ce titre est provisoire pour un an.
C'est-à-dire que le temps que le métier soit en tension.
Alors,
s'il détensionne.
Alors, c'est toute l'ambiguïté. C'est-à-dire que le métier est dit en tension et le gouvernement ou le patronat peuvent à un moment donné dire le métier n'est plus en tension. Suivant quels critères ? Personne n'en sait rien. D'accord ? Donc là, il y a une grosse ambiguïté.
Mais ça voudrait dire que ça lèverait.
Alors, et si le métier n'est plus dit en tension, qu'est-ce qui se passe du titre de séjour qui a été donné au sans-papier ou à la sans-papière ? Bah, il peut éventuellement sauter. Et ce qu'il y a aussi d'important, c'est que si je travaille, par exemple, dans le secteur de l'aide à la personne, d'accord ? Et qu'à un moment donné, j'en ai marre parce que les conditions sont mauvaises et que j'ai envie d'aller travailler dans un autre secteur qui n'est pas en tension. Quid de mon titre de séjour qui était métier en tension ? Bah, il risque de sauter également. Donc, il y a pas mal d'ambiguïté, pas mal de choses qui nous inquiètent et qui nous laisse à penser que ce n'est pas une régularisation comme ça, plein pot. D'ailleurs, Darmanin, dès qu'il a dit qu'il régulariserait des gens, il y a eu une levée de bouclier de la droite, et il a commencé à dire, oh là, attention, ça va être au cas par cas. Hein. Donc il a commencé à minimiser.
Ouais, le fameux cas par cas.
Et voilà, le fameux cas par cas. Et là, vous avez entendu dernièrement les députés LR qui ont commencé à dire que sur le versant soi-disant gentil, il risquait d'y avoir un appel d'air, le fameux appel d'air mythique, hein, prôné par le Rassemblement national, qui ne s'est jamais vérifié d'ailleurs, mais il risquerait d'y avoir des millions de gens qui se diraient « Oh là, en France, il y a des possibilités de régularisation, on y va tous et toutes. » Ce qui n'a jamais existé, mais bon, voilà quoi, on agite l'épouvantail. Et donc, on voit bien qu'entre le projet de loi tel qu'il est aujourd'hui sur ce versant soi-disant sympathique et sa traduction dans le prochain... dans la prochaine loi, il risque d'y avoir de moins en moins de possibilités de régulariser les gens. Donc ça, c'est sur le versant, entre guillemets, sympa. Par contre, il y a un versant, alors là, complètement répressif, où, qui consiste à, comme ils disent, faciliter l'expulsion des étrangers. Et alors là, ça tape dur. Il y a ce qu'on appelle, qui existe depuis très longtemps, les obligations à quitter le territoire français, qui va être porté de 1 an, normalement, à 3 ans. Donc, je peux vous dire que quand...
C'est-à-dire que ça veut dire porté de 1 an à 3 ans.
Une obligation à quitter le territoire français, c'est quoi, d'abord ? C'est une injonction faite aux étrangers de quitter le territoire français. Et généralement, soyons clairs, les gens qui sont assujettis à cette OQTF restent en France. Il y a à peu près 125 000 OQTF par an. En France, on est les records... En Europe, des OQTF. On a une spécificité. Et M. Darmanin juge que ce n'est pas assez, qu'il faut en faire plus.
Et qu'il faut les faire appliquer.
Et qu'il faut les faire surtout appliquer.
C'est son volet
voilà,
exécutif.
Qu'il faut les faire appliquer. Donc ça veut dire que normalement, une OQTF, quand tu as une OQTF, la personne qui l'a, qui reste en France, pendant 1 an, doit se faire, entre guillemets, discrète, pas se refaire choper par les flics, et surtout a une interdiction formelle de présenter un dossier en préfecture. Quand les guichets de la préfecture sont ouverts, ce qui n'est pas le cas depuis 2 ans. Bon, c'est un vrai scandale total. Mais donc, voilà, pendant 1 an, on oublie. Au bout d'un an, il y a une petite éponge magique qui fait que le sans-papier a le droit de nouveau de revenir à un guichet pour régulariser sa situation. nonobstant le fait que quand même dans l'ordinateur, c'est marqué OQTF. Bon, ce qui n'est pas un avantage. Mais là, ils veulent la porter à 3 ans. Et 1 an et 3 ans, ça n'a rien à voir. Ouais. Quand vous êtes en France depuis 5 ans, qu'on vous dit « tu vas encore attendre 1 an », bon, on peut attendre, entre guillemets. Mais si on leur dit « vous attendez 3 ans », ça change drastiquement l'affaire. Et de plus, ils vont se donner les moyens de faire en sorte qu'effectivement, ça soit appliqué. Alors, comment on se donne les moyens ? D'abord, on multiplie le nombre de places en centre de rétention administrative. C'est-à-dire qu'on va construire de nouvelles prisons. Hein, les centres de rétention administrative, ce sont de véritables prisons dans lesquelles les personnes peuvent rester jusqu'à 90 jours. Merci Macron, c'est lui qui a porté de 45 à 90 jours. On va multiplier le nombre de places dans le projet de loi de ces centres de rétention qui vont être portés, je crois, de 3000 à 5000 d'ici 2027. D'accord ? Donc, on va embastiller les gens et on va se donner les droits de les expulser. Et au-delà des OQTF, il va y avoir ce qu'on appelle des interdictions de retour sur le territoire français, qui est alors là beaucoup plus grave que les OQTF. Parce que si vous n'obéissez pas à l'interdiction de retour sur le territoire français, qui peut être de 2 ou 3 ans, si vous restez sur le territoire français, ce coup-ci, ce n'est pas comme une OQTF, à la fin des 2 ou 3 ans, vous ne pouvez plus jamais de votre vie présenter un dossier en préfecture. Ça s'appelle un bannissement. Donc là, c'est redoutable et pour l'instant, malheureusement, le mouvement de contestation n'est pas à la hauteur pour s'opposer à cette IRTRTF qui a été prônée depuis 2011 au niveau européen. Bon, voilà. Donc, on est dans cette situation où on va augmenter les OQTF, les IRTF. On va mettre toutes les personnes qui ont une OQTF, on va les mettre dans un fichier des personnes recherchées. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, mais si. Un fichier de personnes recherchées, c'est là où il y a des voleurs, des violeurs, des criminels. Bon, ce qui peut paraître tout à fait légitime par ailleurs, là, d'avoir peut-être un fichier. Mais pourquoi mettre des étrangers
en situation irrégulière,
ce qui n'a rien à voir, ce n'est pas des criminels. Ça veut donc dire qu'on fait un trait d'égalité entre étrangers égale potentiel délinquant et criminel. Et donc, ça, au niveau de l'opinion publique, c'est absolument désastreux. Ça montre le niveau raciste, alors moi j'emploie ce mot-là, de cette loi. Moi j'emploie même le mot de racisme d'État.
Bien sûr.
Que beaucoup réfutent, hein, ça c'est clair. Hein, y a un débat, y a des gens qui ne veulent pas employer le mot de racisme d'État. Moi je pense qu'on est en train d'atteindre des niveaux de racisme d'État. Parce que là, on dit clairement à l'opinion publique, ben voilà, regardez ces étrangers, c'est des potentiels criminels, ils ont une OQTF, on les fout dans un fichier de personnes recherchées. C'est désastreux au niveau de la communication et c'est désastreux pour le vivre ensemble, quoi. Même si j'aime pas trop ce terme, enfin voilà. Donc,
Je sais pas. Enfin, oui, à propos de vivre ensemble. Ouais.
Aujourd'hui, il y a tout ça.
C'est quand même un terme, mais c'est quand même une réalité.
Alors, j'en passe et des meilleurs parce qu'il y a même un truc qui est qu'on va pouvoir dire aux flics, lorsque vous êtes aux frontières, qu'un étranger passe une frontière, se fait choper, on peut donner le pouvoir aux gendarmes et aux flics de prendre sans son assentiment les empreintes digitales et le test ADN.
Sans son consentement.
C'est aux frontières
et c'est sous prétexte d'être étranger.
Voilà. Alors c'est
puisque voilà. Bon, il faut rappeler qu'on peut refuser, je veux dire, tout.
Exactement.
Tout citoyen, citoyenne français, française voilà. Peut refuser un prélèvement d'ADN.
Voilà. Quand t'es en garde à vue, voilà, ils te demandent le test ADN, tu peux le refuser, tu tombes, tu vas devant
après,
les tribunaux.
Après, ils t'emmerdent.
Ils t'emmerdent un max. Mais tu peux refuser. Tandis que là, aux frontières,
en tant qu'étranger, tu peux plus.
Tu ne pourras plus refuser. Et alors, sans être complotiste et anticipé, mais ce qui se passera aux frontières pourrait tout à fait être translaté au niveau des commissariats dans toutes les régions. Et voilà, on ne demandera plus aux intéressés leur consentement.
Bah c'est surtout des trucs à deux vitesses.
Bah, c'est aussi qu'on peut considérer que pour une personne sans papier, en fait, le voisinage avec les forces de l'ordre est toujours une frontière. C'est-à-dire qu'il y a la frontière physique du pays. Qui est physique quand même maintenant de plus en plus, et chaque confrontation avec les forces de l'ordre, avec ces, enfin ou avec des affidés des forces de l'ordre, en fait, c'est un passage à la frontière, donc c'est un passage à tabac aussi, quoi.
Ouais,
du coup, c'est l'application de ces lois arbitraires.
Oui, ouais. De toute façon, c'est déjà violent. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, quelque part, ouais, dans la loi, on met toujours en application ce qui est déjà fait sur le terrain. Le seul problème, c'est que c'est dans la loi. C'est-à-dire, c'est dans le marbre. Donc, c'est
bien
tout
sûr,
à fait différent. Et la capacité qu'on a après à ester, comme on dit, en justice, est moindre. Donc, cette loi est absolument désastreuse, avec en plus le retour de la double peine. C'est-à-dire que tous les étrangers, quand on est étranger, qu'on a même une carte de résident de 10 ans, si on a fait une connerie, ce qui peut arriver à tout le monde, hein, citoyen ou citoyenne, quelle que soit la nationalité, bon, on passe devant la justice, ce qui est normal, même si c'est une justice de classe qu'on peut récriminer, ceci étant, il y a une justice. Bon, on passe devant la justice. Si la personne concernée prend 5 ans de prison, elle peut prendre les 5 ans de prison et retour au pays.
Extradé.
Ça, c'est quand même, de mon point de vue, terrible, quoi. Ça veut dire pourquoi considérer qu'un étranger n'a pas les mêmes droits qu'un citoyen ou une citoyenne française. C'est-à-dire, j'ai fait une connerie, je purge ma peine. Et une fois que j'ai purgé ma peine, et bien terminé, je reviens dans la société et je reprends ma vie normale.
Mais bah c'est non. Là où on peut parler de racisme d'État, parce qu'il y a vraiment d'établir, ou de xénophobie d'État. Enfin, il y a vraiment d'établir dans la loi, d'établir une différence entre les nationaux et les étrangers. Après, les étrangers, ça varie suivant d'où tu viens, de qui tu es, etc. Mais je veux dire, ce truc simplement de dire qu'il y a des droits différents, je veux dire qu'il y a, il y a nettement une ségrégation, quoi. Je veux dire que, voilà, c'est, et ça, ça s'inscrit dans la loi, ça s'inscrit dans les mentalités, voilà, que... voilà, c'est et donc dans la normalité et c'est dire au-delà du quotidien et de la réalité violente de la violence de ces lois, il y a ce que ça induit de façon plus nébuleuse mais plus vaste et peut-être plus durable. C'est-à-dire, il y a une différence entre les gens suivant d'où ils viennent, leur statut, etc.
Tu as parfaitement raison de mettre le débat à ce niveau-là, parce que si cette loi passe, en fait, ça concerne tout le monde. Ça ne concerne pas que les principaux concernés.
Oui, bien sûr, et c'est
ça concerne la société entière, quoi.
Et c'est sans arrêt minimisé par ceux qui proposent ces lois, en disant, mais non, mais il s'agit de ramener ça à des problèmes de sécurité, ou des problèmes économiques, ou des problèmes de... Enfin voilà qui sont vraiment des pis-allés, quoi.
Toujours.
Et du coup qu'est-ce qui est prévu
alors
par...
ce qui est prévu, c'est qu'il y a déjà un agenda
ce projet de loi.
Il y a quand même il y a deux choses qui sont faites, hein. Depuis déjà un an, il y avait un cadre unitaire qui s'appelait la marche des solidarités, qui regroupait l'ensemble des collectifs de sans-papiers et pas uniquement sur la région parisienne, au niveau national. Et depuis, il y a eu un cadre qui se veut plus large, qui s'appelle l'UCIGE, Unité contre l'immigration jetable, qui était un cadre unitaire qui a existé en 2006 lorsqu'il y a eu la loi CZA qui est rentrée en vigueur. Bon. Donc, qui est réanimé et qui est plus large parce qu'il intègre la LDH notamment et les syndicats comme la CGT. Bon. Alors, nous, dans le cadre unitaire de la marche des solidarités, depuis un an, on est déjà sur le terrain contre ce projet de loi Darmanin, qui était annoncé il y a longtemps déjà. Et donc, il y a eu déjà une manifestation centrale le 18 décembre, bon, qui a quand même fédéré sur Paris à peu près 4000 personnes. Alors, bien entendu, 4000 personnes, c'est bien trop peu, parce qu'on en parlait tout à l'heure en micro, il y a une défaillance de la société civile, quoi, citoyenne, française, qui n'accorde pas son soutien et sa solidarité, comme elle devrait le faire, à des étrangers. Bon. Et que les principaux concernés aussi, c'est un problème, il y a à peu près 600 000 sans-papiers. 600, 700, 500, on ne sait pas, puisque par définition, on ne le sait pas sûr. Mais il y a très peu de sans-papiers organisés en collectif de sans-papiers. Ça reprenant peut-être 3-4 000 en France, ce qui est ridicule. Bon, voilà, donc il y a à faire en sorte que les sans-papiers s'organisent par eux-mêmes, d'accord, et à faire en sorte d'élargir le soutien. Alors, il y a eu le 18 décembre, là, il y a une manifestation samedi, Donc c'est le 18 février,
18
je crois.
18 février, 14h.
Qui a lieu à la Porte Dorée à 14h. Et le thème, c'est non au centre de rétention administratif. Et ça, c'est une lutte centrale parce que les CRA, il faut vraiment les bannir, quoi. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une justice exceptionnelle pour les étrangers. Parce que les CRA, c'est vraiment très difficile d'en sortir. Et surtout, c'est 90 jours éventuellement d'enfermement avant de relâcher la personne si on ne l'a pas expulsée pour rien, quoi. Juste pour la faire souffrir. Donc ça, il faut éviter. On dit toujours aux travailleurs sans papier, surtout ne vous promenez jamais dans la rue avec votre passeport. Ah, je ne sais pas si ça vaut le coup de le dire, mais
si, si.
C'est important de dire que pour lorsque vous êtes interpellé quand vous êtes sans papier, si vous avez votre passeport sur vous, immédiatement, ils disent « bon ben, vous êtes de telle origine » et donc ils peuvent vous expulser directement s'ils estiment que vous avez atteint l'ordre public. Si vous n'avez pas de passeport sur vous, ils vous mettent d'abord en garde à vue, en rétention administrative ça s'appelle, pendant 20 heures dans un commissariat de police, et après seulement, ils vous transfèrent dans un centre de rétention administratif. Et donc, ils mettent ce temps, les 90 jours, pour aller à votre consulat, pour demander un laissez-passer. Pourquoi ? Parce que le pilote de ligne, qui est dans l'avion, le ou la pilote de ligne, elle demande obligatoirement soit un passeport, soit... par défaut, un laissez-passer consulaire. Salut. Et donc, le laissez-passer consulaire, c'est pour ça qu'il y a des centres de rétention administrative, c'est que les autorités françaises foutent la pression sur les consulats pour obtenir ce laissez-passer consulaire. Alors, il y a des gens, il y a des pays plus ou moins gentils avec les autorités françaises. Attention, c'est à la fois de la corruption, c'est-à-dire on donne du fric, et de la pression sur des intérêts économiques. Mais il y a des gens comme les Maliens... qui mettent à distance les autorités françaises et qui délivrent assez peu des laissez-passer consulaires. Donc, si vous n'avez pas le laissez-passer consulaire, la personne, elle sort du CRA. Mais ils vont la faire chier pendant peut-être 90 jours, dans des conditions terribles. Tellement terribles que la CIMAT, dernièrement, là, il y a 48 heures, vient de dire qu'ils arrêtaient leur mission dans le centre de rétention de Mélie-Lamneau, parce que les conditions sont épouvantables. Non, ils ont dit, non, attendez, c'est quoi, c'est n'importe quoi. En plus, vous mélangez des populations différentes. Il y a des gens qui ont des problèmes psychiatriques qui ne voudraient pas être là, mais dans les hôpitaux. Il y a même des Français qui sont là par défaut parce que c'est surpeuplé dans les autres prisons. Enfin bon, non, ils ont dit, on se retire. Donc tout ça pour dire que la manifestation samedi prochain contre les CRA,
elle est vachement importante. Elle marchera vers le CRA de Vincennes.
Voilà, et ça va au CRA de Vincennes. Oui, voilà. Il y a Vincennes et Mélie-Lamneau. Voilà.
On accueille une nouvelle camarade.
On accueille une nouvelle camarade, Agnès. Bon.
Merci beaucoup, Pierre. Donc, pour résumer, la loi Darmanin, c'est diviser entre gentils et méchants ce qui n'existe pas. C'est donner aux gentils des titres de séjour provisoire qui sont en fait des titres de travail jetables. C'est augmenter les OQTF et chercher à les faire appliquer. Augmenter les délais d'OQTF de 1 à 3 ans et fabriquer ce qu'on appelle des IRTF qui provoquent le bannissement. Et voilà, ça reflète ce que notre société a de raciste.
Merci.
Peut-être
tu restes un peu.
Ouais,
on verra.
Je
reste un peu, ouais. Merci CRLR.
De rien.
Et on a plus à Mulhouse et à Paris.